France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain en direct de Volvic, l'un des fleurons français de l'eau minérale, nous ouvre ses portes. Nous sommes dans l'une de ses usines ici dans le Puy-de-Dôme. Vous l'entendez, alors les consommateurs sont toujours aussi nombreux, mais certains s'interrogent sur la qualité des eaux en bouteille.
Je consomme de l'eau du robinet au quotidien. Je me dis qu'on est dans une région où l'eau est pas trop mauvaise. Et puis très honnêtement, différence entre eau en bouteille et eau du robinet, dans les deux cas, j'ai moyennement confiance, on va dire.
Et puis il y a la question de la ressource, entre 5 et 7 millions de litres sortent d'ici chaque jour. Y en aura-t-il pour tout le monde dans les prochaines années ?
L'eau est un bien commun et là, très clairement, il y a un accaparement de l'eau par une multinationale qui est Danone.
Voilà l'un des discours que l'on peut entendre ici, même s'il est loin d'être majoritaire. Et puis il y a l'enjeu économique, l'eau représente ici plusieurs centaines d'emplois. Voilà pourquoi nous avons décidé de réunir tous les acteurs de ce dossier dans cette émission pour qu'ils se parlent et pour qu'ils vous apportent des réponses. Sans oublier toute l'actualité de ce vendredi avec vous Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À commencer par la pagaille à la gare du Nord à Paris et aux alentours.
Le trafic est totalement interrompu. En effet, dans la gare parisienne, plus grande gare d'Europe, une partie du périph et de l'autoroute A1 est aussi fermée à cause d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale retrouvée sur les voies à Saint-Denis. Les démineurs sont sur place et nous irons aussi à Saint-Denis. Dans l'actualité, le moral des soldats ukrainiens sans illusion sur un cessez-le-feu rapide, vous les entendrez. L'Europe qui se réarme face au lâchage des États-Unis. Et pour financer sa défense, la France a une idée, Agnès Soubiran.
Une idée toute simple, puiser dans les 5 000 milliards d'euros d'épargne des Français en créant par exemple un livret D comme défense, aussi appelé livret bleu-blanc-rouge ou livret kaki en référence à la couleur de l'uniforme des soldats, sur le modèle du livret A qui aide au financement du logement social et qui est le placement préféré des Français. Mais figurez-vous que d'autres secteurs ont aussi des vues sur ce magot entre guillemets, notamment les hôpitaux publics qui songent à l'enfer. C'est un livret H, H comme hôpitaux. Mais d'ailleurs, est-ce une bonne idée ces livrets ?
On en reparle tout à l'heure avec vous Agnès. Dans ce journal également, 2 ans de prison ferme pour le Squal, l'ex-patron du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, condamné pour ses liaisons dangereuses avec LVMH. Et puis la drôle de com' de l'Elysée autour d'une visite présidentielle mardi dernier dans Lyon, sans la presse, mais tout de même avec des images.
Et puis juste avant 14h, clin d'œil ici à une salle de concert de Clermont-Ferrand que tous les artistes français connaissent. La coopérative de mai qui fête ce week-end ses 25 ans et on a pour elle une surprise. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est ici que tout commence à l'intérieur de l'une des 2 usines Volvic de la commune. 10 000 mètres carrés, je suis à l'intérieur, au-dessus des lignes de production. L'eau est extraite du sol et puis ensuite elle est mise en bouteille. Chaque jour, autour de 250 camions quittent l'un de ces deux sites pour approvisionner les clients en France et en Europe. Ils quittent aussi par wagon, hein, 30% de la production par le rail. Bonjour Mathilde Deschamps.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici dans une usine que vous connaissez par cœur. Vous êtes aujourd'hui référente qualité d'accueil, mais vous avez travaillé sur ces lignes de production pendant près de 20 ans ?
Exactement, pendant près de 20 ans, j'étais ici.
Qu'est-ce que vous faisiez ?
Eh bien, j'étais conductrice de machines automatisées. Le but, en fait, c'était de conduire ces machines, les surveiller, les alimenter en matières premières, mais également de faire des contrôles qualité.
Voilà, c'est automatisé, hein, cette production. Il y a du contrôle, il y a assez peu d'ouvriers, de salariés là autour de nous. J'en ai compté quelques dizaines seulement. On fait tout de A à Z ici. On fait les bouteilles et ensuite... On met l'eau à l'intérieur ou est-ce que ça se passe de l'autre
Exactement.
Côté là-bas ?
Exactement, en fait ça se passe dans les salles d'embouteillage. Donc là, arrive ici, dans ces salles sous atmosphère hygiène contrôlée pour préserver bien sûr la qualité de l'eau. Ensuite, il va y avoir tout un processus jusqu'à la partie expédition bien sûr. Donc avant tout, elle sort donc dans ces salles d'embouteillage, elle est remplie, bouchée. Et ensuite, une fois qu'elle sort de ces salles d'embouteillage, là, elle ne craint plus rien. Donc il va y avoir tout ce process avec tout d'abord, nous voyons ici devant nous une étiqueteuse qui va pouvoir mettre l'étiquette sur la bouteille. Uh-huh. Ensuite, elle va passer dans ce qu'on appelle la fardeleuse, la machine qui va mettre les bouteilles sous pack, hein, en conditionnement, soit en pack plastique, soit en carton, suivant les exigences du client.
et il y a à peu près, il y a des bouteilles d'un litre, un litre cinq, il y a 8 litres aussi, il y a à peu près toutes les...
Exactement, là, en fait, nous sommes au-dessus de la ligne des bonbonnes de 8 litres. Hein, notre, vous avez aussi également à côté une ligne qui est multiformat. Elle peut très bien fonctionner avec des bouteilles de 33 centilitres, de 75, d'un litre et demi. Et vous avez d'autres bouteilles ou d'autres lignes, par exemple la ligne 2 qui fonctionne avec uniquement des bouteilles d'un litre et demi.
Le débit est impressionnant, on voit des milliers de bouteilles qui passent sous nos yeux. Elles sont contrôlées à
bien sûr qu'elles sont contrôlées à tout instant, de toute manière, de la source au produit fini. Vous avez des contrôles continus à tout moment. Ici même à la production, en fait, vous avez des gens qui prélèvent des bouteilles, qui ont des contrôles très spécifiques sur ces bouteilles. Mais en plus de ça, nous avons nos mireuses électroniques qui vont contrôler tout sur la bouteille, en fait, hein, que ce soit l'étiquetage, que ce soit le bouchage, le remplissage, tout est contrôlé. Si une bouteille n'est pas conforme, elle sera immédiatement éjectée. On n'a plus de mirage humain maintenant.
Je précise qu'on peut venir visiter ce site, il est ouvert au public.
Bien sûr,
régulièrement du public. Merci de nous avoir fait la visite, Mathilde Deschamps. Cette production, elle pose des questions, hein, beaucoup d'eau extraite, je l'ai dit. La question du partage, la question de la qualité, on l'a évoqué. La question du recyclage aussi de ces bouteilles plastiques. On va en parler avec tous nos invités qui nous attendent à Volvic, à quelques centaines de mètres sur la place du village. J'y serai dans 15 minutes. Avant cela, on vous retrouve, Corinne Audouin, pour toute l'actu de ce vendredi. Et donc, cette galère depuis ce matin pour les voyageurs en gare du Nord à Paris.
Oui, la plus grande gare d'Europe paralysée par la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Le scénario semble improbable. C'est pourtant l'explication de la pagaille qui règne ce matin. Trafic totalement interrompu, l'Eurostar, le Thalys, le TGV, les trains régionaux, le RER, plus rien ne marche. Une partie du périphérique et de l'autoroute A1 sont également fermées. Marion Ferrer, vous êtes en direct de la gare du Nord, bonjour.
Bonjour.
La gare où les voyageurs cherchent des solutions alternatives.
Oui, il va falloir en effet trouver des solutions de secours pour les voyageurs. Ils sont 600 000 à transiter ici chaque jour, Gare du Nord, puisque le ministre des Transports, Philippe Tabarot, vient de nous confirmer depuis la cellule de crise que l'opération de déminage débutée très tôt ce matin exige du temps.
Et nous donnerons, j'espère, dans les heures qui viennent, le feu vert pour pouvoir rétablir un service pour la fin de journée, je vous l'ai dit, à partir de 16 heures. Mais tout ça est conditionné au retour des équipes de démineurs. Les choses sont maîtrisées, mais elles ne sont pas anodines.
Et des complications qui n'ont pas tardé à arriver, puisqu'une conduite de gaz vient d'être découverte sous l'emplacement de la bombe, ce qui rend le travail des démineurs bien plus dangereux et difficile. Dans la gare, les voyageurs, eux, ne peuvent se référer au message diffusé en boucle sur les haut-parleurs et place désormais au système D pour tenter de sauver les départs prévus notamment à Londres et Amsterdam pour beaucoup d'usagers en cette veille de week-end.
La solution apparemment c'est d'attendre demain matin, d'essayer de venir à 7h du matin et de demander à rentrer dans le train pour voyager debout.
Bon, après voilà, c'est soudain, on ne pouvait pas deviner qu'il y aurait un obus qui serait découvert aujourd'hui.
Et bien justement, on est dans les démarches, on va faire le maximum pour se faire rembourser. Et bien rester sur Paris, profiter du soleil parisien.
Et ben on a pris un blabla bus à la place où on va mettre 7h à arriver Amsterdam.
Et pour circuler dans Paris, en revanche, bus et métro fonctionnent toujours, mais avec un risque de saturation.
Merci Marion Ferrer avec Nicolas Mathias pour les moyens techniques. Et on part tout de suite justement suivre cette opération de déminage qui est en cours à Saint-Denis, à 200 mètres du périphérique. C'est là qu'on a trouvé l'engin sur les voies, un obus de 500 kilos. Cécile Dacosta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la Plaine Saint-Denis, alors tout est suspendu hein, pendant que les démineurs travaillent à désamorcer ce vestige d'un bombardement de 1944.
Tout à fait, on ne voit pas vraiment les démineurs travailler depuis la route. Il faut dire que le périmètre de sécurité a été élargi il y a à peu près une heure. Impossible d'approcher à plus de 500 mètres. Cordon de sécurité pas vraiment respecté pour l'instant. Beaucoup de monde dans la rue, dans ce quartier à cheval entre Saint-Denis et la Plaine Saint-Denis. Des évacuations sont en cours depuis une heure. J'ai croisé Camille et Rémi qui travaillent ici.
Bon, on était en train de travailler en réunion et puis là, donc il y a les RH de Chenu qui sont venus un peu en panique. Moi, je pensais que c'était juste pour prendre... des nouvelles ou boire un café. Et on n'a pas trop compris. On nous a dit qu'il y avait une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est un peu choqués.
Quand je suis arrivé ce matin, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un camion de déminage qui était là. Je pensais que c'était un exercice. Je suis rentré dans le bureau comme si de rien n'était, parce qu'il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas beaucoup de monde.
J'imagine qu'il y a un petit côté surprenant. Tout ça.
Ah oui, c'est que c'est pas habituel.
Les démineurs attendent la fin de ces évacuations pour intervenir sur la bombe. Un engin impressionnant, vous l'avez dit. Pour vous donner une idée, en cas d'explosion, le souffle serait ressenti jusqu'à 1 km à la ronde. Forcément, ça attise aussi la curiosité des habitants, comme Maxime qui est venu faire quelques photos ce matin. Comme il le dit, c'est pas la première fois qu'une bombe est découverte dans le quartier.
Il me semble, il y a quelques années, peut-être 5-6 ans, un peu plus en avant, vers Porte-la-Chapelle, il y avait même chose, je crois, qu'on a trouvé aussi une bombe de Deuxième Guerre mondiale. Il y avait plusieurs voisins qui étaient délogés ou bien faits partir. Bien sûr que c'est impressionnant.
Et pour le moment, impossible de savoir quand le périmètre de sécurité sera levé.
Merci Cécile Dacosta avec Julien Girard. Pour les moyens techniques, je vous rappelle donc qu'aucun train au départ ni à l'arrivée ne circule de la gare du Nord et le périphérique et l'autoroute A1 sont en partie coupés. L'Ukraine oscille entre espoir et désespoir au lendemain de l'accord européen sur un méga plan de 800 milliards d'euros pour se réarmer et compenser le lâchage des États-Unis. Les combats font toujours rage. La nuit dernière, les forces russes ont massivement bombardé les infrastructures ukrainiennes. Pour la première fois, l'Ukraine a contré ces attaques avec des Mirage 2000. Les avions de chasse français ont détruit 100 drones et 34 missiles russes. Alors la perspective d'un cessez-le-feu n'est pas pour demain. Près de la ligne de front, dans le Donbass et dans l'est du pays, notre envoyée spéciale, Virginie Pironon, est allée sonder le moral des militaires.
Andreï Kaki, Victor Yabeshko est militaire de carrière. À 56 ans, ce lieutenant-colonel devrait être à la retraite, mais ce natif de Donetsk a dû reprendre du service. Pour lui, le désengagement des États-Unis est très inquiétant pour les mois qui viennent.
C'est une telle déception, cette attitude envers nous. J'ai plus l'âge de m'énerver. C'est pas comme quand j'étais plus jeune. Donner un bon coup de poing à quelqu'un dans les dents ne règle rien. Mais il y a quand même des gens à qui il faut le faire. Et peut-être qu'il faudrait le faire à Trump. Malheureusement, ça ferait un scandale.
Mais pour le militaire, avec le soutien des Européens, le pays pourrait tenir face à l'agresseur russe, à condition que ça dure.
Si toute l'Europe reste unie, alors oui, il faut qu'ils comprennent que si l'Ukraine tombe, ils seront les prochains.
Du haut de ses 2 mètres, Yevren, 25 ans, est droniste à Tchassiviar. Cela fait un mois seulement qu'il a rejoint l'armée. Il assure que pour le moment, dans son secteur, les troupes ukrainiennes tiennent bon.
Oui, dans l'ensemble, on tient. C'est l'état d'esprit qui compte. Il y aura l'aide de l'Europe, plus nous-mêmes. Maintenant, notre pays a lancé pas mal de production d'armes. Tout ira bien pour l'Ukraine.
Selon les autorités ukrainiennes, l'armée dispose de 6 mois de réserve d'armes pour tenir face à l'ennemi.
Virginie Pironon en Ukraine avec Martin Troidec et Yachar Fazilov. Volodymyr Zelensky appelle à nouveau à une trêve dans les airs après cette nuit de bombardement. Des délégations américaines et ukrainiennes se verront mardi en Arabie Saoudite pour définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial, d'après l'émissaire de Donald Trump. Et où trouver l'argent pour financer ce réarmement européen. Mercredi soir, Emmanuel Macron a promis de ne pas augmenter les impôts des Français. Parmi les pistes envisagées, un emprunt national et des nouveaux livrets d'épargne sur le modèle du livret A qui finance le logement social. Les banques pourraient bientôt proposer un livret D comme défense. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Mais l'armée n'est pas la seule à s'intéresser à l'argent des Français.
Cela fait même plusieurs années que les hôpitaux publics y pensent. Face à la baisse des investissements, l'idée d'un livret H fait son chemin. Pour financer les équipements très coûteux comme les gros plateaux techniques. Cela aurait du sens, explique Cécile Chevance. Elle est responsable du pôle finance de la Fédération hospitalière de France.
Ça serait un symbole fort de permettre aux Français de contribuer à travers leur épargne, de contribuer effectivement à cette modernisation et à l'innovation des installations hospitalières publiques.
L'objectif, récolter plusieurs milliards d'euros pour permettre aux 40% d'établissements hospitaliers qui n'ont pas les les moyens d'investir, de trouver des fonds. Des discussions informelles sont d'ailleurs en cours avec le ministère de la Santé.
Alors c'est livré H pour les hôpitaux, D pour la défense. Est-ce que c'est une bonne idée, Agnès?
Alors pour donner aux Français l'envie d'investir, il faut respecter quelques règles, détaille Philippe Crevel qui préside le cercle de l'épargne.
Premièrement, le taux de rémunération. S'il est trop faible, ça ne va pas attirer les épargnants. S'il est trop élevé, ça va coûter cher pour l'industrie de la défense. D'autre part, pour attirer le chaland, est-ce qu'on va exonérer d'impôts et de prélèvements sociaux? Mais dans ces cas-là, l'État va perdre des recettes.
Et puis, cela pourrait donner des idées à d'autres.
Pourquoi l'agriculture n'aurait pas son livret? Pourquoi les restaurateurs, l'hébergement touristique ou je ne sais quoi n'auraient pas leur livret?
Et si l'épargne des Français attire autant, c'est aussi parce que les taux de prêt des banques sont encore jugés trop élevés.
Donc pourquoi pas des livrets à prime, R, etc. Merci Agnès Soubiran, service économie de France Inter. 2 ans de prison ferme pour Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement français, est jugé coupable d'avoir utilisé son réseau professionnel au profit du groupe de luxe LVMH dont il était devenu le consultant en sécurité. Le Squall, c'est son surnom, a notamment fait surveiller François Ruffin, auteur d'un documentaire moqueur sur Bernard Arnault, le patron de LVMH. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Alors les juges du tribunal de Paris sont allés plus loin que les réquisitions du parquet.
Oui, 4 ans avec sursis requis et donc ce matin 4 ans, dont 2 fermes, donc sous bracelet électronique, 200 000 euros d'amende prononcée au terme d'un jugement très sévère. Pendant près d'une heure, le président reprend les différents volets de cette volumineuse affaire et c'est bien sûr cette partie sur l'espionnage de Fakir, le journal de François Ruffin qui retient le plus l'attention. Les juges ont rappelé les échanges entre prévenus où il est question d'infiltration du journal, d'infiltrer, prononcée par des personnes qui travaillent dans le renseignement, peu de doute sur la signification du mot, insiste le président, pour qui Bernard Squarcini était le donneur d'ordre de cette surveillance occulte de Fakir, une prestation refacturée à LVMH. Et cette surveillance, ajoute le juge, a gravement porté atteinte à la liberté d'association et à la liberté d'expression, ce qui, poursuit-il, est insupportable au corps social, car faisait passer les intérêts privés avant tout. Un jugement accueilli avec satisfaction, mais tout de même un regret par François Ruffin.
Et évidemment, on est au regret, toujours, qu'il y ait eu des lampistes sur le banc des prévenus, mais qu'il n'y ait pas eu le commanditaire, Monsieur Bernard Arnault.
Les avocats de Bernard Squarcini ont tout de suite annoncé faire appel de la condamnation de leur client qui ne comparaissait pas seul. 2 prévenus ont été relaxés, les 6 autres ont été condamnés à des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 1 an ferme.
Merci Ariane Grissel. C'était mardi dernier. Emmanuel Macron visitait un village de Lyon, Augy, au sud d'Auxerre. Rencontre avec le maire et des habitants, déambulation entre le café et la boucherie. Vous n'en avez pas entendu parler sur France Inter car la presse n'était pas invitée et c'est le boucher qui a ensuite posté des images de la visite. Alors l'association de la presse présidentielle s'insurge contre une pratique qui s'apparente, Timur Öztürk, à une véritable opération de com.
Oui, on dirait une vidéo amateur prise sur le vif.
Ça va, oui, ça se passe bien pour vous?
Ça se passe, difficilement dans les petites communes.
Ça fait combien de temps que vous êtes installé, vous?
Ça fait 6 ans que je suis installé.
Le son n'est pas de bonne qualité, mais selon les informations de nos confrères de France Info, c'est bien l'équipe du président qui filme, qui décide de montrer tel plutôt que tel autre passage. Mais la vidéo est publiée par le compte Facebook de la boucherie, trompeur pour le public. Après le doux, l'aine, voilà qui devient une habitude, relève l'association de la presse présidentielle. La présence de la presse est une exigence de transparence vis-à-vis des citoyens, rappelle l'association. Mais un proche du président assume, il aime ça, le vrai contact, sans policiers, sans préfet, sans presse et sans mouvement politique qui s'invite. Quand les journalistes sont là, c'est différent, justifie cette source. Dans Lyon, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il annoncé? A-t-il été pris à partie? Nous ne le saurons pas et donc vous, auditeurs, ne le saurez pas. Et si un incident grave s'était produit, qui en aurait témoigné? Des journalistes de Lyon républicaine sont finalement arrivés sur place, mais 3 heures après le début de la visite.
Merci Timur Öztürk, service politique de France Inter. Le pape François entame sa 4e semaine d'hospitalisation. Le Vatican a pour la première fois diffusé Place Saint-Pierre hier soir un message audio. La voix essoufflée, François y remercie les fidèles pour leur prière. Et puis en Syrie, ce sont les combats les plus violents depuis la chute de Bachar el-Assad il y a 3 mois. Dans le nord-ouest du pays, des affrontements entre des membres des forces de sécurité et des fidèles de l'ancien régime ont fait 70 morts. On apprend également ce matin par l'Observatoire syrien des droits de l'homme la mort de 52 musulmans alaouites, la communauté de Bachar el-Assad, tués par les troupes du nouveau régime. Bonjour Christian Cheneau.
Bonjour.
Les autorités, on le voit, ont le plus grand mal à rétablir l'ordre en Syrie.
Oui Corinne, parce que dans la montagne alaouite qui surplombe la côte méditerranéenne, les anciens loyalistes du régime déchu sont encore puissants et actifs dans la clandestinité, connectés au réseau mafieux de trafic de drogue et d'armes. Ils disposent de moyens financiers considérables, notamment en argent liquide, et entendent bien conserver leurs précarés et leurs activités illicites. Ces incidents violents illustrent toute la difficulté des nouvelles autorités à rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire, faute d'avoir suffisamment d'hommes sur le terrain, alors que l'appareil de sécurité épuré des cadres de l'ancien régime est en pleine reconstruction, donc encore fragile. À ce stade, le nouveau pouvoir islamiste ne contrôle environ 1/5 de la Syrie, essentiellement les grandes villes, et encore à Alep, des tirs se font entendre la nuit, me rapportait ce matin un médecin de la grande ville du Nord, inquiet d'une situation sécuritaire précaire et instable. Outre la région de la côte méditerranéenne, aujourd'hui en pleine ébullition, les dissidences qui défient les autorités de Damas sont actives, dans le sud avec les Druzes, dans l'est avec les Kurdes.
Merci Christian Cheneau. C'est une des nombreuses cibles de Donald Trump, la science. Depuis son accession au pouvoir, le président des États-Unis sabre dans les crédits de la recherche et multiplie les licenciements. Stand up for science, debout pour la science, c'est le mot d'ordre d'un collectif de chercheurs partis des États-Unis, repris notamment en France. Sandy Dauphin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes devant la faculté de Jussieu à Paris, point de départ d'une manifestation parisienne aujourd'hui. Et autour de vous, chercheurs et simples citoyens sont venus protester contre cette attaque inédite.
Oui, les mots qui reviennent souvent ici, c'est obscurantisme, sabotage, chasse aux sorcières, dystopie. Ce matin, lors des tables rondes, les chercheurs ont décrit les licenciements massifs dans les agences et instituts de recherche américains, les purges de données, la censure aussi. Les programmes de recherche en fonction du genre sont interdits, avec des risques concrets pour la santé des femmes, explique l'épidémiologiste Dominique Costagliola, spécialiste du sida et des maladies infectieuses, Grand Prix de l'INSERM.
Ça veut dire que, par exemple, on n'a pas le droit de regarder si un problème de santé est différent chez les femmes et chez les hommes, comme c'est le cas, par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, ou si la prise en charge est différente chez les hommes et chez les femmes. Vous imaginez, ça veut dire que, par exemple, vous n'avez pas le droit de travailler sur le cancer du sein, parce que forcément, ça va être chez les femmes, vous n'avez pas le droit de travailler sur l'endométriose. Vous voyez, c'est absolument hallucinant.
Les scientifiques veulent montrer leur solidarité avec leurs collègues américains, mais ce n'est pas un mouvement corporatiste, insiste l'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Il s'agit de défendre les fondements même de la démocratie.
Ce sont les bases de la démocratie qui sont attaquées à travers cette offensive massive. La démocratie, c'est la délibération à partir de faits avérés, mesurés par la science et pas des opinions et pas des vérités alternatives. Ça nous concerne toutes et tous.
Le rassemblement pour défendre la science doit débuter dans un quart d'heure ici. Pour l'instant, la place Jussieu devant la fac est clairsemée.
Merci Sandy Dauphin avec Romain Lucquens pour les moyens techniques. Une quinzaine d'autres manifestations se tiennent en France cet après-midi. Et puis santé, science et environnement, eh bien on en parle aussi à Volvic avec vous Jérôme Cadet.
Ah oui, les trois à la fois. On peut même faire un peu de météo. J'ai pas les talents d'Élodie Calac, mais c'est grand beau sur Volvic aujourd'hui. Et c'est très agréable. Merci Corinne. La météo arrive dans une minute. À tout de suite.
Tu verras, dans notre boîte, on est très à cheval sur la sobriété. Tu vois cette table ? C'est de l'acajou recyclable.
Et tous ces ordis là-bas, ça sert à quoi ?
Ah ça, on vient de remplacer tout notre matos informatique. Oups, on n'a pas eu le temps de faire le tri. Allez, petit café ?
Vous trouvez ça absurde ? Et vous, combien d'ordinateurs et de téléphones dorment dans vos bureaux ? Pour leur offrir une deuxième vie plus responsable et solidaire, rendez-vous sur le site emmaüs-connect.org. Allez monsieur, tout va bien se passer.
Vous savez que cet ordi, j'ai fait ma première levée de fonds. Au revoir mon poussin.
Le danseur oriental. À Constantinople, Gulgul, jeune lutteur et calligraphe au palais du sultan, assiste à la fin de son monde. Entre mystères des maisons closes, trahison et amour pluriel, le danseur oriental raconte la fin d'un empire ottoman qui vit ses dernières heures. Le danseur oriental de Metin Arditi. Un roman envoûtant aux éditions Grasset.
La météo avec Utopia.
Camping, tentes et cabanes en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Une journée encore ensoleillée, Elodie ?
Oui, alors on a quand même un temps plus perturbé vers le sud. Hein, sur le Languedoc-Roussillon, des pluies au menu, surtout sur les Cévennes. Sur les Pyrénées, la Basse-Vallée du Rhône, la Provence et la Corse, là aussi pas mal de nuages, quelques averses. On a toujours ce vent de sud à sud-est qui souffle assez fort sur les Pyrénées jusqu'au sud du Massif central, jusqu'à 90 voire 100 km à l'heure attendu dans le domaine de l'Autan, vers le Lauragais et la Montagne Noire. De la Bretagne au Cotentin, là aussi beaucoup de nuages, parfois inondés. Et puis ailleurs, vous l'avez dit, c'est du soleil, parfois un petit peu voilé, surtout sur la façade ouest. Et l'ambiance est très printanière, un petit peu comme hier avec 15 à 20 degrés, 15 à Montpellier, 16 degrés attendus à Volvic cet après-midi, 18 à Rennes, Paris, Nancy, Limoges, Lyon ou Ajaccio, jusqu'à 20 pour Bordeaux et pour Bayonne. Demain, grande douceur, un soleil un peu plus voilé tout de même, des pluies toujours sur le Languedoc-Roussillon, parfois soutenues sur les Cévennes, et puis on surveillera le vent, il sera très fort sur les Pyrénées et surtout dans le domaine de l'OTAN.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
C'est un nom qui parle à tous les Français. Volvic, dans le Puy-de-Dôme, à une dizaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. C'est la commune qui nous accueille aujourd'hui. Nous étions à l'intérieur de l'une des deux usines Volvic il y a quelques minutes. Je me trouve maintenant sur la place de l'église où avait lieu le marché ce matin. Autour de nous, des maisons en pierre noire. C'est précisément la pierre de Volvic, cette roche volcanique très utilisée dans les constructions ici et notamment celle de Notre-Dame de la Garde qui surplombe la commune. On n'est pas à Marseille, on est bien à Volvic, mais il y a bien aussi cette statue de Notre-Dame de la Garde qui veille sur la destinée de cette commune et puis sous nos pieds des réserves d'eau qui font la richesse de cette commune. Bonjour Laurent Thévenot.
Oui, bonjour.
Merci de nous accueillir dans votre commune. Un peu plus de 4000 habitants ici. Vous êtes
4700 exactement.
Vous êtes maire depuis 2020. Oui. J'ai trouvé ce matin à l'hôtel du commerce qui nous accueillait le plan de la ville, le plan de la commune de Volvic et qui est extrêmement explicite. On a l'allée de la Coulée, on a le camping de la Source, on a le parc de la Source, on a le site du Goulet qui est la source qui alimente l'eau potable. Ici, tout renvoie à l'eau finalement ici à Volvic.
Effectivement, oui. Les références à l'eau sont nombreuses. Il y en a encore bien d'autres, malgré celles que vous venez de citer. On a également notre centre culturel La Source. On a d'autres rues aussi qui font référence à l'eau.
C'est l'identité de la commune, au fond ?
Historiquement, non. Historiquement, vous l'avez précisé en avant-propos, c'était la pierre noire, la lave de Volvic, la trachée andésite, avec laquelle, ont été construits de nombreux bâtiments, notamment la cathédrale de Clermont-Ferrand.
Bien sûr.
Vous avez parlé de Notre-Dame de la Garde et bien d'autres, et surtout l'activité en termes de monuments funéraires qui ornent nos cimetières.
Mais depuis 90 ans, depuis qu'on extrait cette eau et qu'elle est exportée partout en France et en Europe, elle fait la richesse de la commune. Ce sont des revenus aussi pour votre commune, monsieur le maire ?
Tout à fait, ce sont des revenus non négligeables qui participent au développement de notre commune et qui participe également au développement des offres de services qu'on peut offrir à nos administrés.
Plusieurs millions d'euros chaque année pour la commune ?
Oui.
Ouais. Combien à peu près, très précisément ?
3,5.
3,5 millions d'euros. Il y a plusieurs fontaines, évidemment, comme dans toutes les communes.
Oui.
J'ai été surpris de voir des fontaines vides dans votre commune. Pour quelle raison ?
Il ne faut pas être surpris, elles sont vides à juste titre. On est toujours en hiver, il y a encore des gelées, et donc en termes de protection des installations, parce que la plupart des fontaines sont en circuit fermé, donc pour éviter la casse du matériel, des pompes, et ainsi de suite, on les purge avant l'hiver, et là, elles vont être remises en service, après avoir subi une petite inspection, une petite remise à niveau en termes d'étanchéité.
Voilà, il faut évidemment économiser l'eau et ne pas perdre la moindre gouttelette. D'où vient cette eau ? C'est aussi une question importante ici. Bonjour Christian Amblard, ancien
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS, spécialiste des écosystèmes aquatiques. Vous êtes membre de l'association Préva, qui était une association de défense de l'environnement local. Merci d'être avec nous. Vous connaissez très bien ces systèmes aquatiques. Je voudrais saluer également Emmanuel Gérardin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir accueillis tout à l'heure, puisque vous êtes le directeur de la société des eaux de Volvic. D'où vient cette eau, Christian Blard ? Pourquoi il y a autant d'eau ici ? Est-ce qu'on peut expliquer ça ?
C'est l'ensemble de l'impluvium. Hein,
c'est quoi un impluvium ?
C'est un bassin versant, en quelque sorte. Hein.
Une assiette creuse, on peut dire ça, dans laquelle creuse, tombe l'eau ?
Déjà en pente.
En pente.
Et puis comme il y a un sol qui est en partie volcanique, on sait que les sols volcaniques
sont suffisamment perforés pour qu'il y ait une infiltration de l'eau, et c'est ce qui rend cette eau avec cette qualité.
Emmanuel Gérardin, d'où vient l'eau que vous pompez? On était tout à l'heure à l'usine, c'est plusieurs millions de litres par jour.
Oui, bah, il provient de ce même impluvium qui se trouve à 3 km à peu près à vol d'oiseau de l'usine.
Donc ça veut dire qu'il y a des tuyaux, vos tuyaux ils
descendent les fameux 3 km de tuyaux en sous-sol qui rejoignent la zone de prélèvement et qui rejoignent l'usine, oui.
Comment est-ce que vous assurez la qualité de cette eau? Elle dépend évidemment de ce qui se passe à la surface.
Alors d'abord, je dirais que oui, en qualité, d'abord, il se passe beaucoup de choses dans l'usine, mais avant tout, ça se trouve en termes de qualité de la gestion au niveau de l'impluvium, justement. On protège cette surface depuis près de 20 ans avec une association qui investit sur le territoire avec les éleveurs d'une part, l'aménagement du territoire d'autre part, et également protection de l'environnement au sens propre, quoi.
Voilà, donc ça vous intéresse de savoir ce qui se passe à la surface parce que ça a des conséquences directes. Pour l'eau. L'eau met combien de temps, Christian Blard, entre le moment où elle tombe du ciel et le moment où elle arrive
C'est une question
dans la nappe. C'est difficile.
Oui, mais on peut penser que c'est plusieurs jours, hein, de toute façon, et voire quelquefois au niveau du mois. Mais ce que je voulais dire ici, moi je représente donc des associations.
On va y venir dans un instant, okay. Monsieur Amblard. Je voudrais juste d'abord qu'on explique comment on essaye de s'assurer qu'il n'y ait pas de pollution à la surface. Ça, c'est ce que vous avez essayé de savoir. Célia Quiré, bonjour Célia.
Bonjour.
Dans vos reportages que vous avez réalisés ces derniers jours et qu'on va pouvoir proposer aujourd'hui, ça se passe donc à la surface. Volvic mise sur les agriculteurs. Il les aide notamment à passer au bio. Vous êtes rendu dans une ferme tout près d'ici, Célia.
Oui, à la ferme de Lambène, à Charbonnières-les-Varennes. Ici, les vaches sont bien traitées. C'est de l'élevage extensif, bio, pour du lait, de la viande. Virginie Tempère a repris cette ferme avec son mari. Sa priorité, c'est d'abord le bien-être animal. Elle élève des races rares, notamment des ferrandaises.
On a une nurserie avec toutes nos petites ailes. Donc, c'est les jeunes femelles qui vont faire des vaches derrière. Elle, c'est Vendetta. À côté, on a Venise. Il y en a partout et elles sont vraiment mignonnes toutes.
Et ici, on est au bord de l'impluvium de Volvic, cette cuvette où les eaux de pluie passent dans la nappe pour devenir eau minérale. Pas question donc de répandre des pesticides ou des nitrates.
On est en bio, on a une agriculture biologique. Bah, ça me paraissait cohérent parce qu'en fait, le lien que je fais, c'est directement avec la qualité de l'eau. Parce que vu qu'on est sur une zone d'impluvium, la zone d'impluvium, c'est vraiment là où justement l'eau va s'infiltrer pour aller rejoindre les nappes phréatiques qui sont utilisées donc pour l'eau de Volvic. On n'utilise pas de produits phytosanitaires, on n'utilise pas d'engrais chimiques et on utilise en fait le fumier de nos bovins qui garantit derrière aussi la qualité de l'eau étant donné qu'on n'utilise pas de produits qui vont dégrader le sol ni de techniques culturales qui vont venir le dégrader.
Alors ici, Volvic aide une dizaine d'agriculteurs sur 18 à passer en bio et c'est une assurance vie pour Daniel Maud. Le responsable de la préservation de l'impluvium de Volvic.
On est sur un territoire qui est préservé. Nous, il est important de travailler avec ces exploitations pour qu'elles ne viennent pas altérer la qualité de l'eau. Et notre objectif, c'est de réussir à maintenir cette qualité d'agriculture sur le territoire, c'est qu'elle ne se dégrade pas.
Or ici, l'État n'interdit rien. Si un agriculteur veut utiliser des intrants ou des pesticides, il ne sera pas empêché. Pourtant, cet impluvium est un havre de paix pour la biodiversité. Et vous ne le savez peut-être pas, Jérôme, mais il y a une réserve naturelle ici avec des grottes qui hébergent des chauves-souris. Et c'est la LPO qui veille au grain, Gaël Giraud.
Globalement, sur l'impluvium, il y a une biodiversité vraiment intéressante. C'est le plus important gîte d'hibernation connu en Auvergne. On est autour de 20% des effectifs auvergnats qui se retrouvent chaque hiver dans ces cavités-là. On permet de les protéger et de protéger une partie de leur habitat.
Et grâce à ces efforts de préservation, le Milan Royal revient aussi ici au-dessus de Volvic.
Christian Blard, est-ce que c'est un sujet pour vous, la protection de la surface et ce qui est fait par les agriculteurs pour la qualité de l'eau?
Ah oui, absolument. C'est même essentiel, hein, bien sûr. Alors, on parle de biodiversité, mais c'est vrai qu'il y a une diversité d'habitats ici qui permet d'avoir une biodiversité à la fois de la faune et de la flore qui est peut-être pas exceptionnelle, mais qui est tout à fait de grande valeur.
Alors, c'est ce qui garantit la qualité des eaux de Volvic, qui est ensuite contrôlée, hein, et on l'a dit tout à l'heure dans votre usine, Monsieur Gérardin. On a beaucoup parlé des eaux minérales ces dernières semaines avec les révélations de Radio France qui concernaient un autre groupe, le groupe Nestlé. Radio France a mis en lumière une filtration illégale de son eau en bouteille, selon nos informations. Ça a entraîné beaucoup de remous au sein des minéraliers, donc c'est l'association française des producteurs d'eau minérale, si bien que c'est désormais votre patronne, Monsieur Gérardin, Cathy Lehec, directrice des sources d'eau minérale chez Danone Waters, qui préside cette association des minéraliers. Elle nous l'explique, je l'ai rencontrée il y a quelques jours à Paris.
En 2024, quand il y a du coup un certain nombre d'éléments qui ont été révélés par les médias concernant des pratiques, la Maison des eaux minérales a demandé au président qui était en place depuis 10 ans de se retirer de la Maison des eaux minérales. Et ensuite, donc, il y a eu la volonté d'avoir une nouvelle présidence avec une représentation autour de 5 acteurs. Et donc, je me suis portée candidate à la présidence à fin d'année 2024.
Est-ce que vous craignez que ces révélations ne minent la confiance que peuvent avoir les consommateurs dans ces eaux et qu'elles n'affectent vos ventes ?
Alors aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est que effectivement, le marché pour nos ventes reste stable. C'est un secteur qui est très dynamique. Il y a environ 70% des Français qui déclarent boire de l'eau au moins une fois par semaine. Donc pour nous, de l'eau minérale naturelle. Et du coup, pour nous, ça, ce sont des points importants parce que ça nous amène une forte responsabilité en termes de protection. Notre cœur de métier, c'est protéger la ressource en eau, autant sur ses enjeux quantitatifs que qualité. Et donc c'est pour ça que on est centré, c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est pas uniquement de mettre de l'eau en bouteille, le cœur de notre métier c'est de protéger ses ressources avec l'ensemble des acteurs sur les territoires et c'est de cette façon-là qu'on peut apporter des réponses à nos consommateurs.
Cathy Lehec, directrice des sources d'eau minérale chez Danone Water. C'est Manuel Girardin, vous qui êtes le directeur de l'usine Volvic. On peut pas filtrer de l'eau minérale, c'est interdit en fait.
Alors, j'ai pas entendu ce qu'a dit Cathy, mais c'est interdit. En tout cas, ça peut être autorisé dans certaines conditions, notamment en termes de diamètre de filtration. Il y a des choses claires sur le sujet.
Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous faites ici dans votre usine ?
On filtre à 1 micron l'eau qui arrive à l'usine avec un système de filtration simple, sachant que la réglementation, la limite est à 0,8.
D'accord. Et pourquoi vous faites ça ?
Alors du coup, on est en amont, on est en aval de toute l'arrivée de tuyauterie, etc. Et nous, le but, c'est de récupérer éventuellement la partie physique, des éléments physiques éventuellement qui peuvent se retrouver dans l'eau, pour pas que ça se retrouve dans la bouteille.
Alors, on a parlé des agriculteurs qui travaillent à la surface, ils ont besoin d'eau. Les consommateurs aussi, on a parlé de la source du Goulet qui alimente combien de communes, Laurent Thévenot, en plus de la vôtre ?
Une trentaine de communes, soit 60 000 habitants.
60 000 habitants. Et la question de la ressource en eau, elle s'est posée avec beaucoup d'acuité lors d'un épisode de sécheresse en 2023, ici dans le château d'eau de la France. C'est l'expression qu'a encore employé récemment le préfet du Puy-de-Dôme devant la commission d'enquête sénatoriale qui a été ouverte. Alors que vous continuiez, il y a un an et demi maintenant, Emmanuel Girardin, à produire, à ce moment-là, il y a eu ces restrictions d'eau. Ça a suscité beaucoup d'émoi. Est-ce que vous avez été surpris, Laurent Thévenot, de voir que l'eau commençait à manquer, y compris ici, dans le Puy-de-Dôme, y compris ici chez vous à Volvic ?
Surpris, pas vraiment, puisque de toute façon, la tendance aujourd'hui est plutôt à la baisse de la ressource, très clairement. Et effectivement, en avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a pris cet arrêté préfectoral visant à réduire l'utilisation de l'eau. Au vu des informations que les services de l'État lui avaient remontées, ce qui l'a amené à prendre cette décision.
La source du Goulet, depuis, donne toujours autant ou est-ce qu'elle donne de moins en moins ? Est-ce qu'il y a une inquiétude autour du débit de cette source qui alimente donc ces dizaines de milliers d'habitants ?
Depuis la fin de l'année dernière et cette année, on a un débit qui est remonté très très sérieusement et qui aujourd'hui n'inspire pas à court terme, d'inquiétude particulière.
Emmanuel Girardin, même question. Est-ce que vous avez été surpris il y a un an et demi par cette situation ?
Un peu plus que Monsieur le Maire, quand je l'ai appris, je me rappelle, dans un comité de suivi. C'est un comité qui est inscrit dans notre autorisation. C'est un moment où, une fois dans l'année, on se rassemble avec les autorités et tous les acteurs de l'eau pour partager justement la situation de la ressource. Et à ce moment-là que je l'ai appris. D'ailleurs, c'était un moment de partage de la situation et d'engagement d'un plan d'action pour ne pas se retrouver dans ces situations plus tard.
On va parler de ce plan d'action. D'abord, Célia Kiré, vous qui êtes allée à la rencontre des habitants ces derniers jours, vous avez rencontré des associations qui demandent un autre partage de l'eau, des habitants inquiets et qui estiment que Volvic pompe trop dans cette nappe, surtout depuis que Danone a racheté la société des eaux de Volvic. Certains ont même des recours en justice.
Oui, il y a une affaire en particulier ici. Édouard de Féligonde possède un château à Saint-Genès-l'Enfant construit sur une coulée de lave. Sa famille possède des sources issues de l'impluvium de Volvic, mais aujourd'hui c'est fini, elles ne jaillissent plus. Sa pisciculture la plus vieille d'Europe, classée monument historique, est à sec depuis 2018. En contrebas de son château, hein, Pierre de Volvic, il nous montre les dégâts.
Là, vous avez la fameuse source de la grotte. Alors, on va descendre, puisque, comme vous pouvez le constater, nous sommes à sec.
Donc là, il n'y a pas du tout d'eau.
Il n'y a plus d'eau. C'est énorme le débit d'eau qu'il pouvait y avoir. Hein. Quand j'étais petit, je me baignais là.
Et pour lui, le responsable, c'est Danone qui vide les réserves d'eau. Il demande réparation car les prélèvements ont été multipliés par 8 en 30 ans. Il est consterné devant l'état de ses bassins.
Aujourd'hui, c'est soit une mare à canards, soit une peau de chagrin. Donc là, vous voyez, vous avez une dizaine de bassins comme ça, qui sont là, complètement à sec. Nous sommes asséchés. J'accuse non seulement Danone, parce que aujourd'hui, la ressource prélevée dans l'impluvium est supérieure à la capacité de recharge. Fin 2021, l'impluvium avait déjà baissé de 66%. Donc là, vous avez des bassins d'alvinage, regardez l'état, c'est lamentable. Lamentable.
Et pour lui, la baisse des autorisations de prélèvement de 10%, hein, on en parlait, ne suffit pas. Il réclame une réduction beaucoup plus drastique. C'est une colère partagée par Sylvie Delarouzière de l'association Préva, dont on parlait aussi. Elle se base sur des travaux de recherche qui ont été commandés par la préfecture.
Très clairement, en l'espace de 30 ans, la capacité de recharge de l'impluvium a baissé de 20%. Les sources qui alimentent directement les ruisseaux, qui sont des sources provenant de l'exutoire de l'impluvium de Volvic, sont dans une situation catastrophique puisque les débits ont baissé de 90% en l'espace d'une cinquantaine d'années. Avec une diminution de 70% ces 10 dernières années. D'ici 2030, en été, c'est-à-dire en période de sécheresse, et ça peut durer longtemps, la totalité de la ressource disponible sera prélevée, soit pour l'alimentation en eau potable, soit pour l'activité de l'embouteilleur. Donc on est un peu coincé, il ne reste plus rien pour les sources.
Et les associations demandent donc le respect de la loi de 2006 sur le partage de l'eau. Aujourd'hui, 80% de l'eau de l'impluvium est destinée à l'eau en bouteille et à l'eau potable, 20% seulement pour les milieux naturels. Ce pourcentage a diminué. Elle demande aussi à être entendue par la commission d'enquête sénatoriale sur l'eau en bouteille.
80% donc pour l'eau en bouteille et l'eau minérale et l'eau du robinet et 20% pour le milieu naturel. Est-ce que ces critiques et ce constat il y a un an et demi, Emmanuel Gérardin, ont amené chez vous une réflexion et peut-être de se dire il faut baisser la production?
Alors ça, on ne l'a pas fait en 2023. Ouais. On a engagé des travaux de ce niveau-là depuis bien longtemps. On a engagé notamment des gros travaux d'investissement depuis 2017,
c'est-à-dire
bien avant cette crise, d'investissement à hauteur de 30 millions d'euros uniquement sur l'eau, qui nous ont permis à production équivalente de réduire nos prélèvements de 400 millions de litres par an. C'est 15% de réduction de prélèvement sur cette période-là.
Qu'est-ce que vous ne faites plus aujourd'hui, par exemple?
Alors, du coup, historiquement, on a une usine aujourd'hui qui va fêter ses 50 ans. 50 ans de machines qui avaient pour certaines d'entre elles cet âge-là. On rinçait les bouteilles à l'eau. Aujourd'hui, on les rince à l'air
ouais.
Exactement, pour faire une économie d'eau. Ces technologies qui ont évolué dans le temps, on investit dans les nouvelles technologies pour faire des économies d'eau. Et ça, c'est une grosse étape de la transformation. On a encore d'autres projets engagés pour l'avenir, pour continuer dans cette tendance de réduction des prélèvements.
Mais la production a diminué ces dernières années ?
Non. Globalement, une production stable. Donc,
stable.
Mais c'est important de préciser comment ça peut fonctionner du coup. On prélève de l'eau, sur l'impluvium pour toutes les utilisations, comme n'importe quelle industrie alimentaire. On utilise de l'eau pour des nettoyages, pour le maintien en hygiène. On a une usine d'eau aromatisée. Quand on passe du citron à la fraise, on doit faire du rinçage pour éviter les problèmes de permanence d'arôme. Et c'est toute cette partie-là qu'on travaille en termes d'économie d'eau pour baisser nos prélèvements tout en maintenant l'activité à un niveau stable.
Et il est important de préciser que ce n'est pas vous qui décidez combien d'eau vous pouvez pomper chaque année. Célia Kiré, je me tourne vers vous. Ça, c'est une décision préfectorale. Je précise qu'on avait invité le préfet du Puy-de-Dôme à s'exprimer aujourd'hui et que ce matin, au dernier moment, il nous a expliqué qu'il ne pouvait pas venir pour des raisons d'agenda, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler le cadre et comment les décisions sont prises?
Effectivement, c'est l'État qui décide de combien Volvic peut prélever d'eau, et en 2023, quand il y a eu la sécheresse, ils avaient décidé de réduire de 10%. Cette année, il y a une réduction d'autorisation de prélèvement qui va être imposée de 5% à nouveau, mais voilà, pour les associations environnementales, ces réductions-là ne suffisent pas.
Christian Blard, est-ce que vous êtes convaincu par ce que vous venez d'entendre de la part d'Emmanuel Gérardin, qui nous dit on fait des efforts, on investit des millions d'euros pour consommer moins d'eau dans notre processus de production?
Malheureusement, je suis obligé de dire non. Je voulais préciser que, aussi bien moi en tant que scientifique que les associations que je représente, c'est-à-dire Préva et Marsan Nature, nous n'avons pas comme principe le principe de non-commercialisation de l'eau, nous ne sommes pas opposés à cela, mais par contre il faut que cette commercialisation de l'eau, elle respecte la loi d'une part et qu'elle soit d'intérêt général. Alors elle respecte la loi, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la loi de 2006, qu'on appelle la loi Lema, qui donc dit que l'eau est un patrimoine commun de la nation et elle précise quelles sont les priorités d'usage. Les priorités d'usage, c'est la sécurité publique, c'est également l'eau potable pour la population. Ensuite, c'est l'alimentation des écosystèmes, qu'ils soient naturels ou agricoles. Ne vient qu'ensuite l'aspect industriel.
Ça, c'est l'ordre de priorité. Voilà,
parmi lesquels peuvent être évidemment mis l'embouteillage. Donc nous, nous n'acceptons pas que, alors qu'il y a 30 ans, il y avait de l'ordre de 400 litres seconde qui sortaient pour les différents ruisseaux de la région, qu'on soit revenu ici à 50 litres seconde. Et inversement, les deux courbes se croisent. Hein. Inversement, les prélèvements liés à la Société des eaux de Volvic se sont multipliés par un nombre extrêmement important. Et effectivement, comme il était rappelé tout à l'heure, il y a eu des restrictions d'eau. Hein. Et il y a des restrictions d'eau, toute la biodiversité des ruisseaux disparaît. Et vous comprenez bien que la population, elle peut pas admettre qu'il y ait des restrictions d'eau, alors que tous les jours, il va partir 300 à 350 camions chargés de bouteilles d'eau en plastique qui vont être acheminés dans des pays, la Suisse, l'Allemagne, qui en plus n'ont pas besoin d'eau. Donc ça, c'est pas un développement durable. Même si, je vous le répète, on n'a pas une opposition de principe à la commercialisation de l'eau. Mais il faut qu'elle soit faite dans un contexte durable et qu'elle soit faite effectivement en fonction de la loi.
Emmanuel Gérardin, est-ce que vous vous posez la question de la pérennité de cette activité, s'il vous plaît? Pas d'applaudissements dans cette émission. Chacun se fera son avis. Merci à vous d'être là, d'écouter, mais d'essayer que le débat se déroule sereinement. Emmanuel Gérardin, est-ce que vous dites, mais à l'avenir, est-ce qu'on pourra continuer cette activité? Est-ce que c'est une interrogation que vous avez?
Alors, c'est pas une interrogation, mais j'y crois vraiment à l'avenir de cette activité. Encore une fois, on travaille sur notre performance en eau, ce que je disais tout à l'heure, la réduction de prélèvement se fait au travers de notre capacité à réduire ce qui ne va pas en bouteille, avec une fonctionnalité, l'hygiène, la qualité des produits. On a l'ambition d'aller chercher un ratio d'eau qui va se rapprocher du 1 litre prélevé, 1 litre pour l'hydratation. Et ma position, c'est qu'on a tous besoin de boire. C'est un besoin fondamental. Après, je suis ouvert à comprendre qu'on peut boire de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. Mais là, du coup, il faut même parler de la qualité du produit dont on parle, qui est une qualité d'eau exceptionnelle. Et à ce compte-là, oui, elle a de l'avenir. Oui.
L'an dernier, l'un de vos locales près d'un forage a été saboté. Ça a été un choc de votre côté?
Oui, c'était un choc parce qu'effectivement, on ne s'y attendait pas. On a vécu ça comme un acte violent. De la surprise et on va dire assez vite derrière beaucoup de mobilisation pour pouvoir repartir avec des travaux des équipes qui est exceptionnel.
Situation qui ne s'est pas reproduit et fait qui ne s'est pas reproduit depuis fort heureusement. Laurent Thévenot, est-ce que vous sentez que le débat s'est tendu ces dernières années autour de la question de l'eau dans votre commune, que ça devient un sujet finalement ou pas forcément parce que ce sont aussi des centaines d'emplois et on l'a rappelé au début de cette émission.
Dans la commune proprement dit, je ne sens pas de tension proprement dite. Après, il y a un débat, effectivement, avec les associations. Il y a des échanges, des points de vue différents. Mais j'appellerai pas ça une tension. J'appelle ça un échange de points de vue différents.
Alors, et on l'a précisé tout à l'heure en ouverture de cette émission, lorsque nous étions dans l'une de vos deux usines, Emmanuel Gérardin, vous fabriquez aussi les bouteilles en plastique. Là encore, est-ce que vous avez pu faire des efforts pour essayer de limiter les intrants, pétrole, charbon, eau et gaz qui sont nécessaires?
En termes de quantité de plastique, vous voulez dire?
Quantité de plastique.
Alors oui, ça fait partie des priorités. C'est une priorité chez Danone. Dans les dernières années, on a réduit la quantité de plastique dans nos bouteilles de plus de 10%, 12% précisément depuis 2017. On a aujourd'hui 65% du PET qui est utilisé dans nos bouteilles qui sont du plastique recyclé, du PET recyclé. Et c'est une tendance qu'on a. Enfin, on va vers 100% de plastique recyclé utilisé dans nos bouteilles. Et on travaille évidemment sur le sujet très fortement. Oui.
Alors, est-ce qu'on pourrait se passer de ces bouteilles plastiques? Est-ce qu'on les consommateurs sont prêts à le faire? J'ai posé la question hier à quelques consommateurs que j'ai rencontrés devant un supermarché à Rion, à quelques kilomètres d'ici. Je vois que vous avez acheté de l'eau.
Oui, c'est de la Volvic.
Vous l'avez acheté en grand format?
Ben, pour avoir moins de bouteilles à jeter, mais je ne sais pas si ça change beaucoup. Ben, y a pas d'endroit pour recycler facilement les bouteilles, j'en jette moins comme ça. Et je peux les réutiliser dans le jardin. Je les coupe et je mets sur les plantes pour faire comme une mini-serre que je peux déplacer.
De toute façon, il n'y a que des bouteilles en plastique quasiment. Donc après, si le prix de la bouteille en verre était un peu plus faible,
peut-être qu'on se poserait plus la question. Ou par exemple, le retour aux consignes, comme il y a plusieurs années. Ça peut peut-être être une solution, si c'est un peu moins cher.
En verre, oui.
Parce que du coup, le plastique... je suis pas pro-écologie, mais bon, c'est quand même important, l'écologie de nos jours. Et après, c'est par des petits gestes de chacun où ça peut terminer à faire une solution.
Je ne suis pas trop pour l'écologie, mais l'écologie, c'est important de nos jours. Voilà ce que nous disent consommateurs. C'est intéressant, Marianne Maximi. Bonjour.
Bonjour.
Députée de la France Insoumise du Puy-de-Dôme, pas de cette circonscription, mais de la circonscription juste à côté. Vous avez travaillé sur ces questions de recyclage. Vous avez posé des questions, notamment à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes députée. Vers quel système, selon vous, il faut aller demain? Est-ce que ça pose un problème qu'il y ait autant de Français qui boivent de l'eau en bouteille et avec
en
du plastique?
En plastique,
exactement.
Parce que
et les consommateurs, ils votent quelque part, parce que la production, elle ne chute pas.
Alors, effectivement, les consommateurs ont un pouvoir d'agir, mais je pense qu'il faut aussi que les législateurs agissent. Et ce qu'on n'a pas dit dès le début, c'est que Volvic vend d'abord du plastique pour vendre son eau. Donc, fabriquer une bouteille en plastique, c'est un besoin de pétrole. Sa chaîne commence d'ailleurs très loin de la France pour produire une bouteille en plastique. Et la pub de dire recyclez vos bouteilles, en fait, c'est un mensonge parce que le plastique n'est pas recyclable. Pour recycler, il faut du verre. C'est la seule matière qu'on est capable de recycler de A à Z et de renouveler systématiquement. Donc, je pense déjà.
Ça,
il y a
c'est pas la responsabilité de l'industriel.
Non, mais si. L'industriel peut être contraint par la loi. Et nous avons travaillé effectivement à remettre le système de consigne, c'est-à-dire déjà d'avoir des contenants en verre, parce que je le redis, c'est le seul matériau qui existe que nous savons recycler plusieurs fois de suite, contrairement au plastique. Donc, il y a déjà cette question-là, effectivement, des contenants. Moi, je pense qu'on est dans un système qui est absurde de demander de ne pas contraindre les industriels à bifurquer sur la façon dont ils produisent et ça c'est quand on nous dit que c'est pas un système qui est arrivé en bout de course. Moi je suis convaincue que si aujourd'hui
donc faut arrêter les bouteilles en plastique, c'est ce que vous dites.
Il faut arrêter en tout cas le plastique, mais vous savez il y a des lois sur les usages uniques du plastique, des choses comme ça. Il y a beaucoup de communication aussi et on crée des besoins artificiels vis-à-vis des gens en leur faisant croire que l'eau en bouteille serait aussi meilleure pour leur santé et donc l'eau en bouteille en plastique serait meilleure pour leur santé, ce qui est assez faux parce que aujourd'hui l'eau potable au robinet dans beaucoup de régions et notamment ici elle est de très très bonne qualité et donc c'est important de débunker aussi la communication, le marketing de ces multinationales qui créent des besoins artificiels.
Je vous donne la parole Emmanuel Gérardin dans une minute, mais d'abord puisqu'on parle aussi consigne et recyclage, je voudrais qu'on retrouve Cathy Lehec qu'on a écouté il y a quelques minutes, directrice des eaux minérales chez Danone. Bah, figurez-vous Marianne Maximi qu'elle est elle aussi favorable à la consigne des bouteilles en plastique.
En France, malheureusement, il n'y a que 60% des bouteilles qui vont dans les bons circuits de collecte. Et donc, c'est pour ça que Danone est favorable à la consigne, que ce soit la consigne qui permet de recycler une bouteille ou de la réutiliser, c'est-à-dire de la nettoyer, de la re-remplir, parce que nous, on veut continuer à être exigeant sur l'emballage et parce qu'on souhaite aussi qu'on puisse avoir un maximum de plastique qui est réutilisé, en fait.
Consigne verte, consigne plastique ?
Avec une consigne que l'on souhaite sur le plastique, comme elle a pu exister dans le passé sur le verre, et elle avait montré ses preuves. Et d'ailleurs,
donc vous ramenez votre bouteille là où vous l'avez achetée.
Par exemple, la consigne aujourd'hui existe dans d'autres pays et démontre qu'il peut y avoir plus de 90% des bouteilles qui rentrent dans un système de recyclage et de consigne. Donc nous, en fait, on est un des acteurs de cette boucle, mais en fait, on souhaite en tout cas continuer à nous engager pour avoir 100% de nos bouteilles en plastique recyclé.
Voilà, consigne pour les bouteilles en plastique, nous dit la directrice des eaux minérales chez Danone, Marianne Maximi. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée?
Je le redis, le recyclage...
Et je remercie Monsieur Gérardin qui vous a passé le casque pour que vous puissiez écouter, je dis tout, des coulisses de cette émission, ici sur la place, devant l'église, en direct sur France Inter de Volvic. Allez-y, Marianne Maximi.
Il faut remettre, en fait, la définition du recyclage. On peut réutiliser des choses, le recyclage n'est pas la... Enfin, on peut pas utiliser le même mot pour du verre qui est réutilisable à l'infini, et que du plastique qui va forcément se dégrader et donc nécessiter d'autres apports pour refaire une bouteille en plastique. Enfin, fabriquer une bouteille en plastique, ça nécessite de l'eau, par exemple. Et donc, c'est, à mon avis, la mauvaise solution. Et je pense qu'on a connu les consignes en verre et qu'il faut aujourd'hui, par la loi, réintroduire effectivement les consignes en verre, comme ça existe dans plein de pays. On ne serait pas novateur en la matière.
Emmanuel Gérardin, est-ce que vous pourriez produire de l'eau et la vendre dans des bouteilles en verre? Est-ce que c'est, d'un point de vue industriel, technique, quelque chose qui pourrait avoir du sens?
Alors, c'est des choses qu'on sait évidemment faire. Danone le fait dans la restauration, par exemple. Faut savoir que, malgré tout, sur des circuits longs, et sur des circuits courts d'ailleurs. Une bouteille en verre qui part pleine revient vide. Donc c'est du transport de bouteilles vides qu'il va falloir laver. Donc par rapport à ce qui vient d'être dit, le verre nécessite aussi de la consommation d'eau, de la consommation de produits chimiques et de la consommation énergétique pour faire un circuit complet sur le verre. Et je reviens aussi sur le PET, qui est aujourd'hui un matériau qui est 100% recyclable, qu'on sait recycler aujourd'hui techniquement, technologiquement, à vie. J'invite du coup ceux qui ne l'ont pas encore fait à visiter Carbios, qui est une entreprise start-up du territoire, qui sait aujourd'hui faire du recyclage par voie enzymatique du PET pour refaire du PET avec. Aujourd'hui, on utilise 65% de PET recyclé dans nos bouteilles et notre ambition, c'est d'aller à 100% une bouteille redevient une bouteille.
Si on vous oblige à vendre des bouteilles en verre et à plus faire de plastique, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le coût va augmenter ou pas?
Le coût, oui. Ça, c'est, je pense que oui, c'est une certitude. Et consommation d'eau aussi, très probablement, oui.
Christian Amblard, sur cette question... du recyclage, vous qui étiez chercheur au CNRS, spécialiste des milieux aquatiques, qui représentait l'association Préva.
Oui, enfin le recyclage, c'est, je pense que je partage ce qui a été dit par la collègue qui est ici. Sachant que ce que je voulais dire également, c'est que vous savez qu'il a été évoqué le problème du changement climatique pour expliquer qu'il y avait moins d'eau. En fait, ça ne tient pas du tout ici.
Il pleut toujours autant ici?
Ah ben, sur les 30 années de 1970 à l'an 2000, il est tombé 755 mm d'eau par an. Eh bien, sur la dernière période, c'est pas 755, c'est 751. Donc, une différence qui n'est pas significative. Mmh. Et donc, nous, ce que nous proposons, finalement, c'est de respecter la loi, c'est-à-dire que les prélèvements de la Société des eaux de Volvic soient la variable d'ajustement une fois que les priorités d'usage de l'eau sont respectées, c'est-à-dire l'adduction d'eau potable et les écosystèmes, qu'ils soient agricoles ou qu'ils soient naturel.
Marianne Maximi, vous avez entendu Emmanuel Gérardin vous dire si vous nous obligez à mettre tout ça dans du verre, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Je pense que ça peut dissuader le consommateur. Qu'est-ce que vous dites aussi à tous ceux, 800 emplois CDI ici pour Volvic, 1000 si on ajoute les intérimaires ou les CDD, tous ceux qui peuvent s'inquiéter de votre discours et dire mais moi j'ai pas envie de perdre mon emploi demain.
Effectivement, mais ça je l'entends, mais je pense que le côté de la responsabilité, c'est justement de prévoir la bifurcation et la planification de la fin d'une filière. Et ça, c'est des questions qu'on va être amené à se poser. Et ça serait d'ailleurs irresponsable de ne pas la poser aujourd'hui, de ne pas être capable de planifier comment on fait bifurquer une industrie qui aujourd'hui arrive à son terme en termes de besoins qui sont, je le redis, on parle de besoins artificiels, mais il y a l'eau potable dans le réseau public, dans la grande majorité de notre pays, elle est de bonne qualité. La nécessité de faire croire aux gens qu'il vaut mieux consommer des bouteilles en plastique pour avoir une meilleure eau, je pense que ça, c'est une question de communication d'une multinationale qui est là aussi dans un intérêt de profit. Enfin, on n'est pas dans un monde de naïveté. Aujourd'hui, Danone est une multinationale qui réalise des profits, verse des dividendes. Donc,
et
la question de l'emploi, et l'emploi, du coup, c'est comment on fait bifurquer. Là, la puissance publique, elle a un rôle à jouer. Effectivement, il y a des industries aujourd'hui qui arrivent à leur terme. Et qu'est-ce qu'on fait? La transition écologique, c'est un domaine dans lequel on peut créer énormément d'emplois. On peut faire bifurquer ces emplois sur d'autres technologies. Et quand je parlais justement de la question de la bouteille en verre, par exemple, nous avons une verrerie pas très loin d'ici, à Puy-Guillaume, qui est aussi un endroit où on pourrait recréer des emplois pour relancer une industrie. Et il n'y a pas que l'industrie des embouteilles, parce que quand il y a des restrictions d'eau, il y a d'autres industries très sensibles, et dont on a réellement besoin dans notre pays, dans le département, qui, elles, vont être avoir des prélèvements qui vont être réduits, alors que Volvic, elle, ne va pas réduire autant ses prélèvements.
Laurent Thévenot, vous qui êtes le maire de Volvic, qui représentez donc ses habitants, comment vous accueillez ce discours? Est-ce que vous dites, bah oui, on peut bifurquer, on pourrait se passer finalement ici des centaines d'emplois que représente Volvic aujourd'hui?
Moi, techniquement, je ne sais pas répondre sur cette bifurcation, vous en doutez bien. Voilà, Madame Maximi a une opinion sur le sujet. Le directeur de la Société des eaux de Volvic en a une également. Voilà, je pense que chacun doit avancer un petit peu sur ses points de vue pour voir quel sera le mieux pour nos administrés et nos concitoyens.
C'était une belle façon peut-être de clore cet échange ici en direct de Volvic dans le Puy-de-Dôme. Je voudrais, parce que c'est la tradition dans ce 13-14, qu'on aille un tout petit peu plus au sud et qu'on retrouve la ville de Clermont. Il y a une salle de spectacle que peut-être vous connaissez toutes et tous ici, qui s'appelle la coopérative de mai. Elle va fêter ses 25 ans ce week-end. Je vois que Laurent Thévenot approuve. 130 concerts en 25 ans, plus de 75 000 spectateurs, tous les artistes français la connaissent. Et Sarah Schmitt, la directrice de la coopérative de mai, nous a envoyé un message ce matin.
La coopérative de mai pour les Clermontois, c'est le point de ralliement. C'est là où on va découvrir de nouveaux artistes et retrouver ses artistes préférés. De la pop, du rock, du rap, de la musique électronique. Et surtout, beaucoup d'artistes émergents en devenir. Ce soir, en présentant ce plateau de jeunes artistes avec The Doug d'origine clermontoise et ce nouveau projet de Simone Ringer, c'est la vision des artistes de cette génération pour les années à venir et c'est ça qui est passionnant à proposer.
Trop près de ma bouche, tu as posé tes lèvres et moi j'ai cru que c'était intentionnel.
Salut France Inter, c'est Simone Ringer. J'ai l'honneur de participer à la soirée d'anniversaire de la coopérative de mai qui fête ses 25 ans. Je suis super contente de venir jouer là ce soir et de continuer la fière entreprise musicale familiale parce qu'il se trouve que c'était les Rita Mitsoko qui ont ouvert la salle. Et coïncidence, je suis avec ma mère qui a un petit mot à dire.
Bon quart de siècle, la copée.
Voilà, la boucle est bouclée. Les parents de Simone Ringer, les Rita Mitsoko, étaient là il y a 25 ans pour l'inauguration de cette salle. Bon anniversaire donc. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui dans ce 13-14. Je remercie Jérémy Tuil, Florent Layani et Nicolas Boucard pour la technique. Toute la semaine, aux manettes, Julien Dumont, Loïc Frapsos et Sofiane Berkaoui. Assisté de Sylvain Lesage, Rachid Zourdani, Nicolas Sabat, Carline Desrosiers, la rédaction en chef, Estelle Schmitt, Sébastien Sébiron et Cécilia Arbona, notre chargée de programme. Claire Sophie Collet, merci aussi à toutes et à tous d'avoir été nombreux à être avec nous aujourd'hui sous le soleil de Volvic et d'être venus nous voir en chair et en os. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme ?
Elle est dessinatrice et férue de science. Marion Montaigne est notre invitée au carré dans un instant.
À tout de suite.